Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Créée en 2022 et déjà courtisée par les plus grandes agences de renseignement occidentales. Des services secrets français à la National Security Agency, la fameuse NSA américaine, en passant par le FBI, tous ces services s'arrachent le logiciel de renseignement de la start-up française Filigrane. Pourquoi un tel engouement ? À quoi sert ce logiciel pourtant accessible à tous ? Eh bien, des réponses avec le cofondateur et PDG de Filigrane, Samuel Assine. Bonjour Samuel Assine.
Alors, bonjour Ali.
C'est quoi ce fameux logiciel qui s'appelle OpenCTI ?
OpenCTI, Open Cyber Threat Intelligence, c'est un logiciel d'analyse des cybermenaces qui permet d'agréger et de capitaliser un certain nombre d'informations et ensuite de procéder à son analyse et d'utiliser ces informations à différentes fins, que ce soit dans le domaine de la sécurité opérationnelle, dans le domaine de l'analyse et de l'intelligence ou du renseignement.
Ouais. Donc c'est un simple logiciel qui va recevoir des informations des réseaux sociaux, de votre base de données, etc., et qui va les analyser, c'est ça ?
Exactement, c'est un logiciel qui va permettre de constituer une base de connaissances sur ces menaces, ensuite de les analyser directement et d'utiliser ces informations aux fins que je viens d'évoquer.
Pas forcément des menaces cyber.
Alors, c'est principalement axé sur des menaces cyber, mais effectivement, l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on peut adresser de nombreux cas d'usage, par exemple, la lutte contre la désinformation, le renseignement ou l'analyse d'intelligence économique, par exemple.
Alors, on va revenir sur la manière dont vous avez eu cette idée de créer cette entreprise et ce logiciel. On est en 2022, c'est la veille de la rencontre, la dernière rencontre entre le président Macron et le président Poutine. Vous êtes alors à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce qu'on vous demande ?
Alors, c'est un tout petit peu avant 2022. 2022, c'est la date de création de Filigrane. Donc ça, c'était vraiment avant qu'on crée finalement cette entreprise. Et c'est vrai qu'au moment où moi, j'étais à l'ANSSI, dans ce qu'on appelle le bureau analyse de la menace, avant ça, à la veille de cette rencontre, on nous demande de dresser un état des lieux très rapide pour briefer le président de la République sur 3 ans d'historique de cyberattaques russes contre les intérêts français.
Et là, il se passe quoi ?
Et là, il se passe qu'évidemment, on avait énormément de quantité, enfin, on avait une grande quantité de données à notre disposition, de renseignements. On avait des analystes qui travaillent à plein temps sur ces sujets de menaces d'origine étatique russe. Et pour autant, créer en 24 heures 3 ans d'historique, c'est fouiller finalement dans énormément de rapports qu'on a pu créer, dans les bases de données qu'on avait à l'époque, qui étaient extrêmement disparates et pas forcément centralisées.
Et c'est là que vous avez l'idée de créer donc ce logiciel.
Absolument.
Alors, vous quittez l'ANSSI, vous créez cette boîte, et pourquoi tout de suite vous dites ce logiciel, il sera en accès libre ?
Alors, dans le monde de la cybersécurité, et principalement dans le monde du renseignement d'intérêt cyber et de l'analyse de la menace, il y a une règle d'or, c'est qu'on ne fait rien tout seul. On n'a jamais l'ensemble des bouts du puzzle, il faut toujours collaborer. Et ça vaut autant pour le renseignement en tant que tel, c'est-à-dire que ce soit même des grandes agences américaines, comme vous l'avez dit, la nécessité de collaboration pour pouvoir rassembler les pièces du puzzle et avoir une information sur une menace donnée est extrêmement importante. Et c'est finalement la même chose pour les outils. C'est-à-dire que quand on travaille sur des outils de ce type-là, vu le nombre d'intégrations, le nombre de capacités techniques qu'il faut développer, le donner à une communauté, c'est aussi s'assurer d'une certaine manière de co-construire ce logiciel ensemble et d'en faire une sorte de standard pour pouvoir justement échanger de la donnée plus facilement.
Donc concrètement, moi, je suis un individu, je peux charger OpenCTI sur mon ordinateur.
Absolument.
C'est en accès libre.
Vous pouvez l'installer, le télécharger et l'installer. C'est totalement open source et en accès libre.
Alors, 4300 organisations l'ont déjà installé, c'est ça ?
On estime environ à 4000, entre 4000 et 4500 organisations qui utilisent la plateforme en production à travers le monde, dans une cinquantaine de pays.
Et expliquez-moi, comment en 2022, on peut se dire que les agences américaines de renseignement ne disposaient pas d'un tel outil et viennent voir un petit Français pour lui dire « c'est pas mal ton outil, on va l'utiliser ».
Oh, c'est lié véritablement à la manière dont l'outil a été construit, c'est-à-dire un graphe d'informations, donc la capacité véritablement à modéliser complètement de manière assez holistique la menace, c'est-à-dire des éléments très techniques, mais aussi des éléments très stratégiques. Quels sont les secteurs qui sont ciblés? Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Quelles sont les attributions aussi qui sont faites à des organisations ou à des entités étatiques ou à des groupes cybercriminels? Donc ça, c'est de par la manière dont la plateforme a été construite. Et ensuite, c'est la capacité aussi de la plateforme à passer l'échelle en termes de volumétrie d'informations et de données. Les agences, de manière générale, disposent de logiciels plutôt génériques pour faire du renseignement, c'est-à-dire traiter des individus, des données de différents types. Et nous, cette focalisation sur la cybersécurité et aussi sur un standard, alors désolé pour le mot, mais qui s'appelle STIX, qui est un standard qui devient véritablement majoritaire en termes d'usage de par le monde. L'usage de ce standard fait qu'on a eu une adoption de la plateforme très très massive dès le départ. Et effectivement, il n'existait pas de logiciel de ce type-là.
Et donc le FBI vient vous voir, la NSA vient vous voir et adopte votre outil.
Absolument.
Ouais. Et ils vous font confiance là-dessus.
Absolument, on nous fait confiance et je pense que l'open source joue énormément aussi sur la transparence et la confiance que nous accordent, si vous voulez, les entités qui sont finalement assez critiques et assez secrètes dans leur nature. L'aspect open source, nous on est extrêmement transparent, non seulement bien sûr sur le code source, puisque c'est la nature même de l'open source, mais également sur notre feuille de route. Par exemple, qu'est-ce qui va être construit? Comment en 2025 finalement la plateforme va évoluer? Et toute cette transparence-là crée beaucoup finalement d'interactions et d'engagement au sein de notre communauté pour qu'on puisse encore une fois continuer à co-construire ce logiciel. Et je dirais une dernière chose, c'est que malgré évidemment la création de Filigrane, qui est bien sûr une entreprise à but lucratif, aujourd'hui, nos efforts de développement et nos efforts de recherche
se
et développement...
Se font sur l'open source.
Exactement. Ouais. On a 70% de nos axes d'efforts qui sont sur la partie open source et communautaire de nos produits.
Les services français l'utilisent ?
On ne peut pas révéler la liste complète de nos clients, mais on a un certain nombre de services qui l'utilisent dans le monde occidental. Voilà, le produit est plutôt bien
mais
répandu.
Mais moi, si je suis chinois, je peux l'utiliser aussi alors, puisqu'il est en open source.
Alors, l'ensemble, enfin, évidemment, la partie open source, c'est que tout le monde peut télécharger l'outil. Donc, il n'y a évidemment pas de restrictions de ce point de vue-là. En revanche, effectivement, chez Filigrane, on a des restrictions en termes simplement de relations commerciales avec certains pays, notamment certains pays qui sont aussi soumis à des sanctions économiques aux États-Unis ou en Europe.
Quel est l'intérêt pour une entreprise ou une organisation de passer à la version payante ?
Alors l'intérêt de passer à la version payante, c'est de disposer effectivement de fonctionnalités plus avancées. C'est-à-dire que, par exemple, dans la version payante, vous allez retrouver tous les mécaniques autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, ce qu'on appelle l'indexation et la recherche dans des corps de documents beaucoup plus importants. Donc cette version entre guillemets payante, c'est ce qui nous permet d'adresser finalement les clients les plus matures. Mais c'est vrai que vous avez aussi dans la version open source déjà une plateforme qui est très, très, très fournie et très développée.
Donc aujourd'hui, Filigrane, c'est 80 personnes réparties dans le monde entier, à peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ?
Effectivement, voilà, Filigrane, c'est 80 personnes en moins de 2 ans. Le chiffre d'affaires que vous avez cité est un chiffre d'affaires effectivement qui est plutôt la cible pour nous cette année. Donc la croissance est assez importante pour l'entreprise on va encore continuer l'année prochaine à renforcer nos capacités de recherche et développement. On a encore des logiciels qu'on voudrait développer supplémentaires, notamment dans le domaine de l'analyse de risque. Donc oui, c'est le début.
En gros, hein, sur les dernières années, vous allez lever en tout, hein, sur différentes levées de fonds, à peu près 50 millions d'euros ou de dollars. Ça va servir à quoi ? À embaucher ou au contraire à faire de la recherche ?
Alors nous, c'est véritablement, généralement, les fonds sont assez fléchés, à la fois principalement pour les capacités de R&D, notamment dans le domaine de la donnée, donc de la science des données, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres types de science des données. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros axes d'effort. Et ensuite, on a un axe d'effort sur le développement, notamment aux États-Unis, de nos équipes locales, où on a déjà une dizaine de personnes qui sont réparties côte Est, côte Ouest, et on va continuer à faire croître ces équipes.
Plus gros marché, les États-Unis, c'est ça, dans les années qui viennent ?
L'un des plus grands marchés, évidemment, dans notre domaine, la cybersécurité, principalement pour des entreprises, ça représente aujourd'hui quasi 80% des dépenses, on va dire, dans le monde entier, ça se passe aux États-Unis.
Vous êtes une boîte française, on a l'assurance que vous le resterez ou pas ?
On ne peut jamais donner de garantie à 100%. Ouais. En revanche, on n'a aucune velléité à changer la nationalité de cette entreprise. On en détient aujourd'hui une grande partie du capital.
Vous en maîtrisez
évidemment.
Le capital aujourd'hui.
On en maîtrise la destinée également. On est ce qu'on appelle une entreprise très gouvernée par ses fondateurs. Mmh. Et ça, on veut le conserver. C'est la philosophie de Filigrane depuis le premier jour.
Dernière question. Vous avez récemment un partenariat avec Recored Futur, qui est une des grosses boîtes, on dit une des plus puissantes boîtes de renseignement. Pourquoi ?
Alors nous, justement, avec Recored Futur, le partenariat stratégique qu'on a développé, c'est justement pour eux amènent cette capacité à scanner Internet et à avoir énormément d'informations et de données. Et ces informations et ces données, quand elles sont rapatriées en fait dans une plateforme comme OpenCTI, ça permet de croiser en fait les informations avec d'autres sources, ça permet de raisonner sur l'information et d'avoir finalement accès à quelque chose de très actionnable. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on travaillait ensemble avec les entreprises, la valeur était décuplée comme pour eux comme pour nous.
Merci beaucoup Samuel Assine pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.